À l'Université de Poitiers, le service Handicap étudiant accompagne tous les étudiants ayant une problématique de santé dans la mise en place d'aménagements d'études et d'examens. Que ces handicaps soient temporaires, permanents, visibles ou invisibles, les étudiants peuvent nous contacter. Le handicap invisible peut se définir comme quelque chose que l'on ne peut identifier au premier abord, et contrairement aux idées reçues, cela représente 80% des handicaps. À travers différents témoignages d'étudiants en situation de handicap invisible, nous vous proposons d'en découvrir un peu plus sur la réalité de leur accompagnement.
J'ai 22 ans, je m'appelle Lucas Meunier, je suis à l'université de Poitiers depuis 4 ans. Donc là, je suis en quatrième année, je suis en master 1 de MEF après avoir fait une licence d'histoire. C'est tout ce qui va être le master en lien avec les métiers de l'enseignement. Et donc moi, je fais une formation pour être en collège ou en lycée, ce qu'on appelle le PLC, professeur, lycée et collège. J'ai fait 4 ans de lycée parce que j'ai redoublé ma seconde. J'ai fait un bac général AGGSP SES. Et puis, je me suis destiné vers une licence d'histoire parce que, de un, j'étais passionné par l'histoire. Et de deux, parce que j'ai toujours eu envie d'être enseignant. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Expliquer l'histoire, la vulgariser, essayer de faire apprendre des choses. Et c'est pour ça que je suis allé à l'université. Et je suis très content d'être là. Moi, j'ai toujours eu des problèmes autour de ma graphie, de l'orthographe et aussi maîtrise des langues. Ça, je suis vraiment très, très mauvais dans tout ce qui est les langues étrangères et j'ai aussi des difficultés à lire. Dans ma scolarité, c'est vrai que certains moments, cet handicap-là a fait que je me sentais pas forcément bien parce que quand je regardais les autres progresser énormément sur des langues étrangères comme l'anglais et moi patiner comme comme je sais pas quoi, quand je les voyais, surtout les dictées, ça, les dictées en primaire, ça a été, je pense, socialement le truc le plus dur, que je les voyais qui étaient contents d'avoir 12-13 et que moi j'avais moins 47 parce que je faisais énormément de fautes. Donc oui, la charge sociale, là tu vas vraiment l'impression de te dire ok, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, mais tu te dis pas à ce moment là je sais que je dois avoir quelque chose, une problématique. Non, tu te dis juste c'est de ma faute, c'est tout. Parce que je suis nul, parce que ceci, parce que cela. Donc ouais, socialement, c'est vrai qu'en primaire, ça a été quand même plus difficile. Puis après, petit à petit, comme il y avait de moins en moins de dictées, ça allait, quoi. On pouvait essayer de mettre la poussière sous le tapis. C'était, il me semble, mon professeur de CE2-CM1, c'est ça, qui s'appelait Monsieur Thomas, qui... voyez que sur des choses comme les mathématiques et l'histoire, j'étais quand même bon. Et que bizarrement, dès qu'on passait sur le français, là où j'étais un des meilleurs de la classe, ça patinait. Et donc, puis il y avait la graphie aussi à l'époque. Et donc, c'est lui qui a pris rendez-vous avec mes parents, qui a expliqué que potentiellement, j'étais dyslexique, etc. Puis mes parents ont pris rendez-vous avec un orthophoniste dans un village pas très loin de chez moi. Et c'est une chance, parce que moi, je viens vraiment d'un milieu très rural. Et c'est grâce à cet orthophoniste que j'ai réussi à mettre en place des stratégies pour un peu compenser ma dyslexie. Ma dysorthographie, j'ai beau essayer de comprendre, de réviser les règles d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et autres, j'arrive pas à comprendre la logique. Pourtant, j'y mets vraiment de la bonne foi. Mais c'est des trucs, je vois pas la nuance, je vois pas à quoi ça sert de mettre un accent sur le « ou », par exemple. Le « et » et « enfin, parce que pour moi, le son est le même. Donc, je comprends pas pourquoi on s'embête avec ça, en fait. Donc, donc j'ai réussi à mettre en place des petites stratégies, ce qui fait qu'aujourd'hui, la lecture à voix haute et même la lecture normale, ça va, même s'il y a encore des syllabes où je bute dessus. Mais ouais, donc ça a été surtout au primaire, où il y a eu des gens qui ont réussi à déceler ça, à me prendre en charge et... qui m'ont aidé à comprendre sur le fait que ce que j'ai, c'est un handicap, c'est un mot, c'est un nom, je veux dire, et vivre avec. Donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'aménagement, ça m'a ajouté quand même pas mal de stress quand j'étais au collège. Tout le long de mon collège, j'ai eu des notes limites pour passer à la classe suivante parce qu'il y avait ma graphie qui empêchait la compréhension, parce que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe et donc les professeurs considéraient que forcément que j'avais pas tous les acquis qu'il fallait. Il y avait des professeurs qui faisaient attention, tous ceux qui étaient au fait de la question et de la problématique autour des 10. Et puis, il y avait des profs qui, je ne vais pas dire s'en fichaient, mais ce n'était pas dans leur priorité. Donc, c'était du cas par cas. Ça a été une époque difficile et j'aurais pu lâcher les études à ce moment-là. J'aurais pu. Le collège, ouais, ça a été compliqué. Et puis, bah, comme j'ai pas eu d'aménagement, je me suis tapé, je crois, un 3 ou un 4 sur 20 au brevet de français. Mais comme j'étais bon en histoire, comme j'étais bon en mathématiques, et comme les épreuves orales, ça a toujours été quelque chose où j'étais pas mauvais, bah, j'ai réussi à compenser. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si j'aurais pas eu des aménagements, je pense que la compensation ne serait pas fonctionné. Moi, je sais que c'est un handicap, ce que j'ai. C'est un handicap invisible. C'est un handicap qu'on voit pas tout de suite, qui vraiment est au plus profond de moi-même. J'ai toujours eu pas mal de honte vis-à-vis de ça, parce que j'ai toujours l'impression de mal comprendre ou de pas faire comme les autres. Et là, par exemple, quand je vois en anglais, que je vois tout le monde y arrive et moi, je rame derrière, et ça, c'est à cause de la dyslexie, bah, j'ai toujours un peu l'impression que c'est de ma faute. Mais je me dis, comme c'est pas un handicap physique ou ce genre de truc, et que par des stratégies, on peut réussir à compenser certaines choses, bah, c'est vrai que j'ai mis du temps avant de me rendre compte que ma situation, c'était effectivement un handicap en tant que tel, et qu'il fallait que je m'occupe d'avoir des aménagements, et que c'était possible au vu de ma situation. Mais quand je suis allé à l'université, je savais qu'il fallait que je fasse en sorte d'avoir des aménagements comme j'avais eu pour le baccalauréat, c'est-à-dire pouvoir écrire à l'ordinateur lors des partiels et autres, parce que j'écris, bah, c'est illisible, mais moi, je ne me relis pas. Quand j'ai fait mes secondes au lycée, bah, j'ai vu que entre le moment où je rendais papier quasiment illisible et le moment où je rendais à l'ordi, bah, j'ai eu une différence de notes et j'ai réussi à progresser. Et aussi avoir tout ce qui est une tolérance pour l'orthographe et la syntaxe, parce que je fais au moins 50 fautes par page. Le premier jour, lors de la réunion, ils nous ont fait un petit topo d'informations sur ce que propose l'université. Ils ont parlé du pôle handicap pendant 2-3 minutes, mais bon, les informations étaient essentielles. Et donc, dès que je suis sorti de cette réunion, j'ai contacté le pôle handicap. J'ai eu un rendez-vous avec une personne de ce pôle. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait à l'université, qu'il fallait que je prenne rendez-vous avec un médecin scolaire. J'avais déjà mon bilan et ça s'est fait assez facilement. Et en deux semaines et demie, bah, je savais que j'avais déjà un dossier et que bah, c'était bon pour mon année. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez simple en tout cas. Mais je peux comprendre que pour certains étudiants, ça pourrait être plus compliqué, notamment ceux qui n'ont pas de bilan orthophoniste ou enfin, orthophonique ou ce genre de choses. Bien, moi, en aménagement, j'ai demandé donc la tolérance orthographique, syntaxique, l'usage de l'ordinateur surtout, ça s'est mis en place. Et oui, grâce à ça, bah, tout ce qu'il fallait rendre à la maison, je le faisais à l'ordinateur, là où certains voulaient absolument qu'on le fasse sur papier. Donc moi, j'avais, on va dire, cette tolérance-là. J'ai pas été trop impacté par mon orthographe, même si ça impacte toujours un peu. Parce que quand on fait des fautes d'orthographe ou de syntaxe, parfois, on s'en rend pas compte. On change le sens de la phrase, donc parfois ça peut créer des incompréhensions. Mais j'ai pas eu l'impression de perdre un certain nombre de points parce que je faisais des fautes. Donc oui, ça a été des aménagements utiles. Et c'est pour ça que quand, en master, j'ai dû refaire mon dossier, j'ai demandé exactement les mêmes. Parce que je trouvais que c'était ceux qui allaient le mieux avec mes problématiques. Bah moi, je vois en tout cas que ces dernières années, il y a quand même eu, on va dire, une prise de conscience. Je vais donner un exemple. Ça fait 3 ans que je fais des stages dans mon lycée, où bah, j'ai fait mon bac, et je vois bien qu'entre maintenant et comment j'ai commencé mon lycée, donc il y a plus de 7 ans, aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont des ordinateurs dans les classes, les professeurs, ils sont un peu mieux armés, et puis même, quand je discute avec des gens soit des amis ou soit des gens qui me posent des questions sur moi et que je parle de ça, je vois bien que le regard, il est en train de changer. Il y aura toujours un peu d'incompréhension, je pense, mais en tout cas, je vois bien que c'est en train de bouger au niveau de la société là-dessus. Parce qu'on en détecte de plus en plus. Et là-dessus, je vois bien que la société fait un effort. Après, dans le pôle des enseignants, Donc moi, j'ai fait du coup 4 ans à l'université, donc j'ai eu énormément d'enseignants chargés de TD. Ça n'a posé des problèmes que pour un seul d'entre eux, et tout le reste était quand même bienveillant et comprenait la situation. Dans le sens, j'ai jamais trouvé de remarques sur le fait que j'avais une tolérance, sur le fait que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un point positif. Et moi aussi, ce qui me renforce dans mon envie d'être enseignant, c'est que je sais que des élèves comme ça, il y en a de plus en plus. Et je pense que moi, par rapport à d'autres, de par mes handicaps, je serais capable de les identifier un peu plus rapidement. Parce que je sais les sentiments qu'ils vont avoir. Ça peut être de la honte ou même qu'ils veulent essayer de le cacher ou de le compenser. Et je pense que quand je corrigerai, que je verrai des copies et que je verrai soit des copies ou la graphie, elle est compliquée. Je pense que certains profs auraient pu se dire, c'est juste que l'élève, il est feignant à écrire comme ça. Moi, je me dirais, peut-être qu'il y a de la dysgraphie. Quand je verrai qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans un texte, soit effectivement, c'est que l'élève est pas très fort en français, ou alors c'est que derrière, il y a de la dysorthographie. Enfin, je pense qu'il y a certains réflexes qui me feront gagner un peu de temps là-dessus. Et je pense que c'est un plus pour être enseignant, de pouvoir déceler des problématiques sur certains élèves. Et je sais que ça, c'est le genre de choses où plus s'identifier rapidement, plus les familles ont le temps de faire toutes les demandes et plus l'élève a de chances de réussir parce qu'il a des aménagements pour le brevet ou pour le bac. Il y a certains conseils que je peux donner. Déjà, premièrement, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ses difficultés, de ses handicaps. C'est pas un choix, on est né comme ça, on a ça avec. On peut essayer de mettre en place des petites stratégies, mais on n'arrivera, selon moi, jamais à complètement les résorber, donc faut pas en avoir honte. Par exemple, quand j'ai des travaux à rendre à la maison, je les rédige intégralement, mais après je demande à l'intelligence artificielle de tout me corriger pour essayer de compenser. Mais après, là où je fais encore beaucoup de fautes, c'est surtout lors des partiels. Mais je me dis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils pour nous permettre de compenser, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter aussi à contacter le service handicap parce que c'est un service où c'est des gens bienveillants qui vont tout faire pour mettre en place les aménagements dont on a besoin, qui vont nous aider. Et surtout, une fois que les aménagements ils sont mis en place, ça change une scolarité. Enfin, moi, j'ai eu le vécu, on va dire collège, début de lycée où j'avais pas d'aménagement et où pourtant j'en avais besoin, et le vécu où fin du lycée et l'université j'avais des aménagements. Enfin, les aménagements, ça m'a vraiment beaucoup aidé, et je pense que ça m'a aussi aidé on va dire à pouvoir progresser et puis aujourd'hui à être où j'en suis dans mes études.
Ce podcast a été réalisé par l'Université de Poitiers et sera disponible en ligne sur notre site. Un grand merci à tous les étudiants ayant participé. N'hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin.